actuellement chercheur postdoctoral à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, qui travaille en logique philosophique sur les notions de fondement logique et de pertinence. Il a publié des articles, des chapitres d'ouvrages sur les rapports entre concevabilité et possibilité, la logique de l'imagination, la philosophie de Descartes, ainsi que sur l'improvisation musicale. Et c'est dans le cadre de ses recherches qu'il a dirigé un ouvrage collectif intitulé « Language, Evolution and Mind » et la traduction française en deux volumes des essais de philosophie de la musique de Gerald Levinson en collaboration avec Clément Cannon. Son exposé s'intitule « Une théorie contrefactuelle de l'essence, aspect logique, métaphysique et épistémologique » et on est très heureux de t'écouter, Pierre, aujourd'hui.
Merci Benoît pour cette présentation. Je tiens forcément à remercier Madame le professeur Tiercelin pour son invitation, Alexandre et Madame Sophie Grancier-Rodriguez pour l'organisation de ce colloque qui est vraiment un grand moment et je tiens aussi à dire à quel point les travaux du GEM sont importants pour moi personnellement et puis je pense aussi à toute la communauté de jeunes chercheurs pour qui c'est vraiment très rafraîchissant et c'est très important. Donc, je suis vraiment très heureux et honoré de pouvoir en faire partie et de participer aujourd'hui à ce colloque. Alors, donc je vais parler en français et j'aurai des diapositives en français. J'ai préparé un exemplier en anglais où les principales étapes de l'argumentation sont représentées. Alors, ça reste assez schématique, donc j'espère qu'entre la version visuelle et la version écrite en anglais, ça suffira. Alors, il y a une omission dans l'exemplier. So there's an omission in the handout because after hearing Sonia's talk, I remember that I needed to address an objection from her. So I added it in the presentation, but I couldn't add it in the handout because it was already printed. So I will signal that. Je reprends français, donc voilà, j'ai rajouté un point dans la présentation après avoir imprimé l'exemplier. Et donc c'est pour ça qu'il y a un mismatch entre les deux. Alors, venons-en plus précisément à ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc je vais m'intéresser à trois questions au sujet de l'essence. La question métaphysique, alors qu'est-ce que c'est, par exemple, au nombre 2 d'être essentiellement un nombre. À des questions de logique, donc, qu'est-ce qu'on peut inférer du fait que 2 est essentiellement un nombre et comment on peut inférer que 2 est essentiellement un nombre. Et à des questions épistémologiques, comment on peut savoir que 2 est essentiellement un nombre. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les relations qu'il y a entre toutes ces questions. Donc je ne vais ni faire un exposé de métaphysique, ni faire un exposé de logique, ni faire un exposé d'épistémologie. Je vais faire un peu des deux, un peu des trois à la fois, en quelque sorte. J'espère que ça va au moins vous intéresser partiellement. J'espère que tout le monde y trouvera son compte. Cet exposé, c'est aussi une manière de répondre à un défi qui a été posé par Nathan ce matin, qui est d'étendre au domaine de l'essence une épistémologie contrefactuelle de la nécessité. Donc c'est un peu ce que je vais faire, donc je vais essayer de répondre en fait au défi qui a été lancé par Nathan ce matin. Puis on verra si vous êtes convaincu, et Nathan me dira s'il est convaincu. Donc au programme, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par dire ce qui m'intéresse dans l'épistémologie contrefactuelle de la nécessité. Ensuite, je vais parler un peu d'essence, de nécessité et de contrefactuel. C'est là que je vais présenter la proposition que je veux discuter. C'est vraiment un travail exploratoire en cours, donc ce n'est pas une proposition que je vais défendre mordicus, mais c'est une proposition que je vais explorer et défendre autant qu'elle peut être défendue. Et puis ensuite, je vais discuter un certain nombre de problèmes qui me paraissent être des problèmes importants, et je vais vous dire qu'est-ce que je pense être la meilleure réponse à chacun de ces problèmes. Et je finirai en repartant un peu des contre-exemples feiniens, puisque le but, c'est de défendre une épistémologie avec les contrefactuels de l'essence qui soit pas une théorie modale de l'essence, mais qui soit une théorie de l'essence qui accommode les contre-exemples feignants. En tout cas, qui les évite. Alors, épistémologie contrefactuelle, donc, il y a beaucoup de manières différentes de motiver une épistémologie contrefactuelle des modalités. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un aspect qui est mis en évidence par Williamson, qui est un des principaux défenseurs de cette approche, qui est que c'est une approche qui est non exceptionnaliste. Donc, pour expliquer cela, on peut essayer de regarder quelles sont les routes principales, je ne prétends pas que ce soit exhaustif, mais les routes principales qui sont décrites dans la littérature pour acquérir une connaissance de la nécessité. Et on voit qu'on fait appel à des facultés sui generis qui apparemment ne sont impliquées que par les philosophes quand ils veulent développer des connaissances philosophiques, donc intuition a priori, réflexion sur des concepts impliqués par un certain type de principes particuliers qui sont des principes de possibilité. Dans le cas de l'approche kripkéenne, bon, certes, il y a la collection de données empiriques, mais on a aussi besoin d'un conditionnel essentialiste qui est obtenu par analyse philosophique. Et donc certains philosophes, dont Williamson, estiment que ça rend la connaissance philosophique trop bizarre, trop sui generis, trop exceptionnelle, et qu'on voudrait pouvoir dire que les philosophes ne sont pas si exceptionnels que ça, ils n'ont pas un cerveau si différent que le cerveau des scientifiques. C'est une manière de ramener la connaissance philosophique sur Terre, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le motiver. Alors, comment on peut faire ça? On peut faire ça en utilisant la logique des contrefactuels. Alors, donc les contrefactuels, vous savez, c'est des conditionnels qui partent d'une hypothèse dont on sait qu'elle est fausse, mais à partir de laquelle on essaie de dériver les conséquences. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise ce symbole-là pour formaliser le conditionnel contrefactuel. Donc, quand vous voyez A implique B avec ce signe là, ça veut dire s'il avait été le cas que A, alors il aurait été le cas que B, où on présuppose que A est faux. Donc Williamson, dans son livre de 2007 de Philosophie aux philosophies, nous explique qu'il y a deux principes qui semblent a priori plausibles, qui connectent la nécessité et les contrefactuels. Donc si nécessairement, donc la boîte blanche, le carré blanc, c'est le carré de la nécessité, et ça, c'est le signe de l'implication matérielle, donc c'est le « si alors » de la logique classique, c'est-à-dire que c'est vrai dans tous les cas, c'est vrai dans tous les cas, sauf dans le cas où A est vrai et B est faux. Donc, on a ces deux principes, le principe N ou le principe de nécessité nous dit que si quelque chose, si A nécessite B, alors s'il avait été le cas, il aurait été, s'il avait été le cas que A, il aurait été le cas que B. Le principe de possibilité nous dit que A implique contrefactuellement B, et si A est possible, alors B doit être possible. Donc le losange, ça signifie la possibilité. Et une fois qu'on accepte ces deux principes, qui semblent plausibles, on peut dériver assez facilement une équivalence entre la nécessité et un certain contrefactuel qui nous dit que si A avait été faux, alors quelque chose d'absurde, quelque chose d'impossible, une contradiction s'en serait suivie. Donc, l'idée, c'est que si on accepte les principes logiques plausibles qui nous conduisent à ça, à chaque fois qu'on a besoin de connaître une affirmation de nécessité, il est suffisant de connaître un contrefactuel. C'est-à-dire, si on veut savoir s'il est nécessaire que A, on suppose que A est faux, on essaie de se demander qu'est-ce qui se passerait si A était faux, et si on arrive à découvrir une contradiction, on se dit « Ah, alors A doit être nécessaire ». Et à partir de là, donc on peut faire ce genre de raisonnement pour justifier la connaissance de certaines nécessités, comme le fait que les vieux garçons sont célibataires ou que l'eau est de composition H2O. Et donc Williamson utilise ça précisément pour défendre l'idée qu'on peut avoir une épistémologie des modalités non exceptionnalistes grâce à ces contrefactuels, puisqu'on fait de la connaissance de la nécessité un cas particulier de la connaissance contrefactuelle, et la connaissance contrefactuelle, c'est quelque chose qui est assez commun, on utilise des contrefactuels tous les jours, donc ça rend la connaissance de la nécessité moins bizarre, moins exceptionnelle, moins, voilà, ça la replace sur Terre, en quelque sorte, on pourrait dire. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a tout un tas de questions qui se posent pour cette théorie de la connaissance modale, donc je ne prétends pas, je ne vais pas faire comme si elle était vraie et qu'il n'y avait pas de problème, mais je ne vais pas chercher à la défendre mordicus dans le cas de la nécessité. Donc par exemple, pour évaluer des contrefactuels, on utilise des connaissances d'arrière-plan, donc de quelles connaissances d'arrière-plan on a besoin. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme de contrefactuel? Est-ce qu'on les évalue de la même manière? Donc il y a tout un tas de questions qui se posent, je ne vais pas les traiter dans le détail, je vais supposer que cette approche est une approche qui est séduisante, qui est attractive, précisément parce qu'elle a cette propriété de rendre la connaissance de la nécessité non exceptionnelle, de la replacer sur Terre, de lui remettre les pieds sur Terre. Et la question qui vient après, c'est est-ce qu'on peut utiliser le même genre de stratégie pour faire l'épistémologie de l'essence, qui, à mon avis, est confronté un peu au même genre de difficultés. Comment est-ce qu'on peut mettre l'épistémologie de l'essence, qu'on peut lui remettre les pieds sur Terre? À mon avis, c'est une question qui se pose a fortiori au sujet de l'essence, peut-être encore plus qu'au sujet de la nécessité. Donc voilà un peu le programme. Alors, il y a une manière assez simple de réaliser ce programme, c'est d'adopter une théorie modale de l'essence. Parce que forcément, si vous considérez que si vous pouvez réduire le concept d'essence, vous pouvez expliquer intérieurement le concept d'essence à partir du concept de nécessité, alors vous n'avez plus rien à faire. Votre logique des contrefactuels vous donne la logique de la nécessité, qui vous donne la logique de l'essence. Et donc votre épistémologie des contrefactuels vous donne l'épistémologie de la nécessité et l'épistémologie de l'essence. Donc le problème, c'est qu'on a de fortes raisons de penser, en tout cas si on est convaincu par les contre-exemples de Kitfine, que cette théorie modale de l'essence est incorrecte. Comme vous savez, donc là, je pense que c'est des choses qu'on a un peu rebattues durant ces journées, où vous avez plusieurs manières de présenter cette théorie modale de l'essence. Vous avez une version existentielle, où on dit que X est essentiellement P, si et seulement si, il est impossible que X existe sans être P. Et là, vous avez un contre-exemple immédiat qui fait que ça rend l'existence essentielle. Donc, surtout, ça rend l'existence nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que... qui pose problème. Il y a une deuxième théorie modale de l'essence qui est la version catégorique, où on enlève cette condition d'existence. On dit simplement que X et P essentiellement si et seulement s'il est impossible que X ne soit pas P, donc s'il est nécessaire que X soit P. Et là, Fine a invoqué trois contre-exemples célèbres. Si on prend par exemple la propriété pour S d'être tel que pour Socrate d'être tel que 1 plus 1 égale 2, c'est nécessaire mais intuitivement c'est pas essentiel à Socrate. Le fait d'être distinct de la tour Eiffel, c'est intuitivement nécessaire mais intuitivement pas essentiel à Socrate. Le fait d'appartenir à l'ensemble unique, l'ensemble singleton qui contient Socrate, uniquement Socrate, ça a l'air d'être nécessaire mais pas essentiel à Socrate. Donc, pour toutes ces raisons là on rejette la théorie modale de l'essence. Alors, si on prend maintenant le point de vue du logicien, on voit qu'il y a une règle logique très simple, en fait, qui permet de générer ces contre-exemples et, en fait, tout un tas de contre-exemples, qui consiste simplement à voir que si on prend n'importe quelle proposition nécessaire, donc il n'est nécessaire que A, on peut inférer qu'il est essentiel à S que A pour n'importe quel S. Donc, c'est une manière d'introduire la nécessité. Enfin, finalement, c'est juste qu'une manière d'appliquer la définition de la théorie modale de l'essence sous sa forme catégorique. Et on voit que tous les contre-exemples satisfont ce schéma. 1 plus 1 égale 2, c'est une nécessité. Et donc, ce qui est problématique, c'est qu'on introduit donc, dans la conclusion de la règle d'inférence une référence à une entité S qui n'est pas forcément, forcément concernée par la proposition qui est dans la prémisse. Donc, c'est précisément la raison pour laquelle on a le premier contre-exemple. Mais comme tous les autres contre-exemples aussi partent de nécessité, c'est un schéma qui est vraiment problématique. Donc une manière d'éviter les contre-exemples faniens, c'est de restreindre en fait cette règle. Alors il y a plusieurs leçons possibles à tirer de ce genre de contre-exemple, et je ne prétends pas à l'originalité en disant ça. Donc la leçon radicale, c'est consiste à dire forcément que la nécessité n'a rien à nous apprendre au sujet de l'essence. Donc ça, c'est la position qu'avait Fine dans l'article de 94, où il dit non, il faut tout changer, il faut même inverser le point de vue et dire que c'est au contraire la nécessité qui doit être éclairée par l'essence. Alors c'est une leçon qu'on peut en tirer, mais c'est une leçon qui est peut-être pas forcément, qui est trop radicale en fait, de manière non nécessaire. On peut dire que la nécessité seule n'a rien à nous apprendre au sujet de la nécessité, mais on peut dire que c'est la nécessité plus qu'autre chose. Et donc il y a une famille de... Et ça, c'est, on peut s'en rendre compte si on part de la phrase qui exprime l'intuition qui est à la base des théories modales de l'essence. C'est une phrase que j'ai traduite directement de l'article de Fine, qui dit que X est essentiellement P si et seulement si X doit avoir P pour... X est essentiellement P si et seulement si X doit avoir P pour être l'objet qu'il est. Et donc là, on a une intuition qu'il est question de nécessité, mais il est aussi question d'identité. Et une manière de restreindre les propriétés qui voient, enfin, de colmater la théorie modale de l'essence, c'est d'ajouter une restriction qui fait que les propriétés qu'on va considérer sont des propriétés qui ont à voir avec qui est Socrate ou quelle entité est Socrate. Donc par exemple, On peut imaginer d'enrichir la règle d'inférence qu'on avait plus tôt et de poser une restriction sur le genre de proposition dont la nécessité va permettre d'inférer l'essentialité relativement à S en disant où cette restriction est garantie que A soit entièrement au sujet de S et de rien d'autre. Donc si on fait en sorte qu'on prend que des nécessités qui sont entièrement au sujet de Socrate et seulement au sujet de Socrate, on pourra éviter tous les contre-exemples de Fine. Donc ça, c'est juste un exemple de stratégie qui essaie d'éviter les contre-exemples de Fine en gardant une approche modale, en réinjectant quelque chose qui a à voir avec de l'identité. Et ce que je veux proposer, c'est quelque chose qui est un peu dans cet esprit, mais qui est différent, puisque ça s'appuie sur des contre-factuels. Donc la théorie que je propose de discuter, on va dire, je ne sais pas si je la propose parce que je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure, mais en tout cas, c'est la mérite de discuter à mon avis. Elle dit que X est essentiellement P si et seulement si X n'avait pas été P, alors X n'aurait pas été X. Donc vous avez l'identité qui est niée dans le conséquent. Vous avez quand même un aspect modal, puisqu'on parle de contrefactuel, donc il y a un rapport fort entre la contrefactualité et la modalité. Et comme on a une épistémologie des contrefactuels, on va pouvoir utiliser cette épistémologie des contrefactuels pour faire l'épistémologie de l'essence. Mais on n'est pas immédiatement confronté aux problèmes initiaux de la théorie modale de l'essence. Et si on teste cette proposition avec des exemples simples, j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est intuitivement convaincant. Si Socrate n'avait pas été humain, Socrate n'aurait pas été Socrate. Donc Socrate est essentiellement humain. Par contre, si je vous dis, si Socrate n'avait pas été barbu, alors il n'aurait pas été Socrate. On a l'air de se dire que déjà ça sonne faux. Et donc on ne va pas en déduire que Socrate est essentiellement barbu. Donc il y a une... à première vue, prima facie, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Alors ça c'est un peu, comment dire, c'est pas sans ironie que je fais une citation d'une recension qu'a fait Richard Rorty du livre de Scott Sands, consacré à l'histoire de la philosophie analytique au XXe siècle. Mais il donne une paraphrase en fait des idées de Kripke, qui me semble globalement juste, en tout cas dans les grandes lignes, et il utilise précisément ce genre de tournure. Donc je vous passe les détails, mais il dit par exemple « For whales would not be whales if they did not have a certain DNA sequence, just as water would not be water if it were not made of hydrogen and oxygen. » Donc c'est juste pour vous dire que ce genre de tournure que je propose, vous pouvez me dire, elle est un peu bizarre parce que vous avez l'air de nier une identité dans le conséquent. Mais en fait, c'est des choses qui existent, qui existent dans le langage philosophique. Et c'est des choses qui existent aussi dans le langage naturel. Je verrai des exemples plus tard de ça. Donc maintenant, j'ai mis sur la table la proposition. Maintenant, je vais essayer de discuter les difficultés et d'y répondre. Donc la structure reste ma présentation, c'est un problème et une réponse, quoi. Et c'est maintenant que j'aborde le problème soulevé par un article de 2011 de Sonia Rocaroyes, qui, à mon avis, est probablement... le souci majeur du point de vue épistémologique, alors que les autres problèmes, c'est des problèmes qui sont vraiment à l'interface entre logique et épistémologie. Là, c'est vraiment le problème épistémologique pur, on va dire, qui est le plus sensible. Donc Williamson, on peut faire partir ça d'une citation de Williamson qui nous dit que quand on fait du raisonnement contrefactuel et quand on nie un élément de la réalité, pour arriver à tirer une conclusion contrefactuelle, on est quand même obligé de mobiliser des connaissances d'arrière-plan qu'on a au sujet de la réalité et de les arranger de manière cohérente avec la supposition contrefactuelle qu'on a faite. Et le problème, c'est que pour pouvoir faire ce genre de raisonnement, il y a des choses qu'on a besoin de garder et des choses qu'on a besoin d'éliminer. Alors, des choses qu'on va éliminer en éliminant l'élément de la réalité qu'on a nié, il y a des choses qu'on va garder parce qu'on en a besoin comme des prémices auxiliaires pour dériver la conclusion contrefactuelle. Et la question, c'est, par exemple, si on fait le raisonnement au sujet de l'or, on se dit, que se passe-t-il si on nie que... si on dit, voilà, que se serait-il passé si l'or n'avait pas été l'élément de nombre atomique 79, du numéro atomique 79, est-ce que ça aurait été encore de l'or? Si on veut répondre que c'est pas de l'or, probablement qu'on a besoin d'utiliser comme prémisse quelque chose comme une connaissance préalable ou présupposée du fait qu'il est essentiel à l'or d'avoir le numéro atomique 79. Donc si pour évaluer correctement les contrefactuels, on a besoin déjà d'avoir de la connaissance essentielle, ça ne va pas nous aider en fait de faire l'épistémologie de l'essence avec des contrefactuels puisqu'on va juste expliquer quelque chose dont on a déjà besoin. Donc je pense qu'on peut reconstruire l'argument de Sonia de cette manière-là. Donc premièrement, pour que notre évaluation d'un contrefactuel conduise à de la connaissance, il nous faut maintenir fixe l'effet constitutif. Si nous maintenons l'effet constitutif juste par chance, si par hasard on a maintenir l'effet constitutif, les bons faits constitutifs, alors notre évaluation d'un contrefactuel peut être juste, mais elle sera juste par chance, donc ce ne sera pas de la connaissance. Par conséquent, nous devons connaître quels sont les faits constitutifs pour connaître les contrefactuels. Or, les faits essentiels sont des faits constitutifs. Donc, on a besoin de connaître les faits essentiels pour connaître les contrefactuels. Et donc, le bénéfice épistémologique des contrefactuels pour la connaissance de l'essence est nul. Voilà. Donc, ça, c'est la conclusion la plus radicale qu'on peut essayer de tirer de cet argument. Alors, bon, c'est un argument, je pense que c'est un argument assez fort. Je pense que le point faible, donc le maillon faible dans cette chaîne argumentative, c'est celui qui va de si on maintenait l'effet constitutif par chance, alors notre évaluation ne serait pas une connaissance. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut accepter. Mais l'inférence que Sonia va en tirer, c'est que, par conséquent, il faut qu'on connaisse l'effet constitutif. Il faut qu'on sache quels sont les faits constitutifs, quels sont les faits qui ne sont pas constitutifs. Et à mon avis, je ne veux pas nier que si on les connaît, effectivement, ça va nous aider à ce que nos raisonnements contrefactuels conduisent à de la connaissance. Mais ça ne me paraît pas sûr que le rapport qu'on doit avoir avec le fait de fixer des bons faits constitutifs soit vraiment quelque chose qui procède de la connaissance. Il suffit que nous ayons une disposition fiable à maintenir les bons faits constitutifs. Donc, je pense que donc, le fait d'avoir une disposition fiable à maintenir les bons faits constitutifs, ça évacue le fait qu'on les connaît par chance, mais ça ne suppose pas qu'on ait une connaissance propositionnelle de la forme. Il est essentiel alors d'avoir l'élément atomique 79. Et donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai envie de sortir de l'argument de Sonia et de maintenir l'idée que on produit une connaissance essentielle nouvelle lorsqu'on fait un raisonnement contrefactuel. Alors, on peut répondre qu'on a toujours quand même besoin de savoir quelque chose, au moins implicitement, de l'essence de l'or, pour faire le raisonnement contrefactuel de Williamson. Mais ça reste, c'est pas forcément une connaissance propositionnelle, on n'est pas obligé d'avoir le concept d'essence, on n'est pas obligé d'avoir des croyances de la forme, ça fait partie de l'essence de l'or d'avoir le numéro atomique. C'est juste qu'on a la bonne disposition à considérer que c'est quelque chose qui est plus central à l'or que, par exemple, la couleur de l'or ou les apparences de l'or. Pour essayer de vous convaincre que l'argument de Sonia n'est pas irrésistible, je pense que les raisons pour lesquelles on peut être tenté de considérer qu'on a besoin de connaître ce genre d'informations au sens fort du terme pour faire le raisonnement contrefactuel, ça provient d'une image biaisée de la logique du raisonnement contrefactuel. Donc il y a une manière de présenter le raisonnement contrefactuel qui est la première manière dont ça a été fait, notamment par les gens comme Goodman dès les années 50, et qui était une théorie métalinguistique. C'est-à-dire que pour expliquer ce que c'est qu'un raisonnement contrefactuel valide, on va essayer de le traduire dans un raisonnement déductivement valide dans lequel on va insérer les prémisses manquantes. Il y a des conditions sur les prémisses qu'on doit insérer, elles doivent être notamment cotenables. C'est une des raisons pour lesquelles ce programme n'a pas bien marché, parce qu'on n'arrivait pas à définir la notion de cotenabilité. Et donc, si on se dit que le raisonnement contrefactuel, c'est ça, on se dit que pour connaître B à l'arrivée, on a besoin de connaître toutes les prémisses. Mais d'une part, quand on fait du raisonnement contrefactuel, on ne fait pas ça, on n'a pas toutes les prémisses à l'esprit lorsqu'on raisonne contrefactuellement. Et si on demandait de les avoir toutes à l'esprit et de les connaître, alors on ne pourrait pas rendre compte du caractère facile du raisonnement contrefactuel, parce qu'il y a beaucoup de raisonnements contrefactuels qu'on fait au sujet du comportement des objets concrets qui reposent sur des lois physiques. Or, on n'est pas obligé de connaître toute la physique pour faire de manière fiable ce genre de raisonnement contrefactuel. Donc si on demandait qu'il faille connaître toutes ces prémisses-là pour connaître la conclusion d'un raisonnement contrefactuel, on n'aurait pas de connaissances contrefactuelles facile. Et ça, ce serait quelque chose qui serait, je pense, difficile à nier. Ce serait un coup très fort pour l'approche de Sonia. Je ne pense pas qu'elle veuille nier qu'on ait de la connaissance contrefactuelle facile. Donc, en gros, pour résumer, je ne pense pas que la question de la circularité, elle soit... Donc, si je veux être, comment dire, si je veux être maximalement charitable avec Sonia, je vais dire qu'il y a quelque chose comme un problème de circularité. Alors, on a besoin de connaître des, on a besoin de connaître peut-être au mieux implicitement quelque chose au sujet de l'essence de l'or ou de l'identité de l'or, mais c'est pas quelque chose comme une connaissance propositionnelle de l'essence. Donc, quand je fais un raisonnement contrefactuel qui me conduit à conclure qu'il fait partie de l'essence de l'or d'être de numéro atomique 79, il y a un véritable gain épistémologique. Alors, on peut dire peut-être que c'est un gain qui n'est pas... On n'est pas passé de connaissance non essentielle à de la connaissance essentielle. Peut-être qu'on n'a fait que révéler de la connaissance d'essence. Mais en tout cas, on est parti d'un état où on n'avait pas la connaissance propositionnelle selon laquelle il est essentiel alors d'avoir cette propriété. Pardon, on est passé d'un état où on n'avait pas cette connaissance à un état où on l'a. Et ça, c'est un gain épistémique. Donc ça c'est, je pense, un premier problème qu'il me faut, qu'il me fallait évacuer pour que ce genre d'approche puisse vraiment démarrer, quoi. Maintenant, il y a un certain nombre de problèmes qui paraissent peut-être moins centraux, mais qui ont à voir avec des questions de logique. Donc c'est là le moment où la logique intervient avec l'épistémologie, qui a à voir avec le problème des contre-possibles. Donc les contre-possibles sont des contre-factuels dans lequel l'antécédent est faux, et non seulement faux, mais impossible. Par exemple, si Socrate avait été philosophe et non philosophe, alors qu'est-ce qu'on conclut de ça? Ça, c'est un contre-possible. Et donc, c'est des questions forcément que les logiciens sont posées. Et il y a deux points de vue opposés. Le point de vue orthodoxe, c'est que tous les contre-possibles sont vrais de manière vide. Et la position hétérodoxe, qui revient en force, qui a un nombre d'adhérents en croissance ces derniers temps, consiste à dire que non, certains contre-possibles peuvent être faux. Donc je vais expliquer ça rapidement avec des exemples. Donc on sait tous que c'est impossible de faire la quadratique du cercle. Donc si je dis, si Descartes avait réussi la quadratique du cercle, Hobbes aurait été jaloux. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'accepter, puisque je sais que Hobbes a passé beaucoup de temps à essayer de faire la croix du cercle, il n'y est pas arrivé. Donc on me dit que si jamais Descartes y est arrivé, il aurait été jaloux. Donc c'est quelque chose auquel je peux adhérer. D'un autre côté, si je dis si Descartes avait réussi la quadratique du cercle, alors les ours des Pyrénées auraient été impressionnés. Ça, j'ai envie de dire non. Enfin, les ours des Pyrénées, jusqu'à preuve du contraire, ils n'en ont rien à faire de savoir si Descartes réussit ou pas la quadrature du cercle. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de nier. Du point de vue orthodoxe, il n'y a pas de différence en fait entre les deux. Tous les deux sont vrais de manière triviale parce que partir d'une supposition impossible, c'est la porte ouverte à déduire tout ce qu'on veut. Donc on peut déduire tout ce qu'on veut, ce sera toujours vrai. Et en fait, c'est une vision qui fait un parallélisme entre la notion de vérité vide. En fait, c'est une notion qu'on connaît de la logique élémentaire, de la logique du premier ordre. Donc quand on fait une généralisation conditionnelle à partir d'un prédicat qui est vide, qui n'a pas d'instance, alors on peut en conclure ce qu'on veut. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de cercle carré, on peut en conclure que tous les cercles carrés sont des bananes. C'est quelque chose c'est vrai de manière vide, parce que précisément il n'y a pas de cercle carré, donc a fortiori on peut dire ce qu'on veut de tous les cercles carrés. Donc c'est un phénomène qui est bien connu de la logique classique. On a le même phénomène en logique modale. Si on part d'une proposition qui est impossible, elle implique nécessairement ce qu'on veut, puisqu'il n'y a aucun monde possible dans lequel elle est vraie, donc a fortiori, dans tous les mondes possibles où elle est vraie, n'importe quoi est vrai aussi. Dans tout le monde possible où un cercle est carré, c'est un monde possible où le président Macron est une top trotskiste. C'est quelque chose que je peux dire. Voilà, c'est vrai. C'est peut-être pas très intéressant, mais c'est vrai. Et on a le même phénomène avec les contrefactuels. En particulier, si on adopte l'analyse classique, qui consiste à utiliser une théorie des mondes possibles. Donc l'analyse classique nous dit que le contrefactuel A implique contrefactuellement B est vrai. Si dans les mondes possibles les plus ressemblants au monde réel, parmi lesquels Descartes réussit la quadrature du cercle, tous sont des mondes possibles où les ours des Pyrénées sont impressionnés. Comme il n'y a aucun monde possible dans lequel Descartes réussit la quadrature du cercle, a fortiori, tous ces mondes-là, qui sont les, et si on prend dans ces mondes-là, même ceux qui sont plus proches du monde réel, mais en fait, il n'y en a pas, donc ça ne change rien. Tous sont des mondes, on peut dire que tous sont des mondes où les ours des Pyrénées sont impressionnés. Donc c'est pour cette raison que si on note la théorie des mondes possibles pour les contrefactuels, on est obligé d'adopter la position vacuiste. Donc l'hétérodoxie consiste à dire que non, c'est pas toujours le cas. On peut avoir des contrefactuels avec des antécédents impossibles et pas être obligé d'accepter n'importe quel conséquent. Et une des motivations pour défendre la position hétérodoxe, c'est que ça a l'air d'être le sens commun. Comme je vous l'ai dit, je vous donne des exemples, ça a l'air faux de conclure certaines choses de l'hypothèse contre-possible selon laquelle Descartes réussit la quadrature du cercle. Donc ça a l'air d'être le sens commun. Et on peut essayer d'expliquer de faire une théorie de ce genre de contrefactuel en ajoutant des mondes impossibles à des mondes possibles. Parce que dans tous les mondes impossibles où Descartes réussit la quadrature du cercle, il n'y a pas forcément, c'est pas toujours le cas, que les ours des Pyrénées sont impressionnés. Maintenant j'en reviens aux théories contrefactuelles de l'essence. Vous allez voir tout de suite le problème. Donc, supposons qu'on aille avec l'orthodoxie, qu'on adopte le vacuisme, alors on ne peut pas éviter les contre-exemples fanniens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un raisonnement logique assez simple qui nous permet de reconstruire la règle qui nous fait passer d'une nécessité arbitraire à l'essentialité de cette proposition pour un objet arbitraire. Et donc le raisonnement, il est là. Si jamais vous n'êtes pas convaincu a priori, ça c'est nécessaire. Donc on suppose ça. On suppose que A est nécessaire, donc il est impossible que A soit faux. Donc s'il est impossible que A soit faux, par vacuité, on peut en déduire que s'il n'avait pas été le cas que A, alors S aurait été différent de S, puisqu'on peut déduire ce qu'on veut. Et donc là, ça nous autorise par la théorie contrefactuelle de l'essence à dire qu'il est essentiel à A que S. Or, pour déduire ça, on est parti de cette hypothèse-là. Donc on reconstruit la règle d'inférence. Donc, si vous voulez être contrefactualiste au sujet de l'essence et que vous êtes orthodoxe au sujet de la logique des contrefactuels, vous ne pouvez pas éviter les contre-exemples fainéants. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis il y a un problème qui est encore plus grave, c'est que comme vous voulez faire une épistémologie, vous voulez jouer ce jeu d'avoir une épistémologie des contrefactuels qui vous donne l'épistémologie de la nécessité et l'épistémologie de l'essence, vous avez envie de pouvoir garder ces choses-là, qui était centrale pour avoir l'équivalence entre la nécessité et les contrefactuels. Vous n'avez surtout pas envie de perdre eux, parce que si vous perdez eux, toute votre approche, en fait, elle perd son intérêt. Or, si vous acceptez N, vous êtes obligé d'accepter le vacuisme. Et là, il y a un petit raisonnement très simple aussi. Si vous partez d'une impossibilité, il n'est pas possible que A, la logique modale avec des hypothèses très faibles, vous pouvez conclure qu'il est nécessaire que A implique B. Enfin, c'est le même phénomène de vacuité qu'on a vu un peu plus haut. Et donc à partir de là, si vous appliquez N, vous pouvez en conclure que A implique contrefactuellement B. Et donc vous retrouvez le vacuisme. Donc, c'est à partir d'une hypothèse contrefactuelle impossible, on peut déduire ce qu'on veut. Donc du coup, vous voyez que la position orthodoxe en matière de logique contrefactuelle et l'épistémologie des contrefactuels à la Williamson ne font pas bon ménage. Williamson, qui est un bon logicien, qui est un philosophe qui est la plupart du temps cohérent, il a choisi son camp. Et donc lui, il défend la position orthodoxe en logique contrefactuelle. À ma connaissance, il ne défend pas une théorie contrefactuelle de l'essence. En tout cas, s'il défendait une théorie contrefactuelle de l'essence, il serait obligé de défendre une théorie modale de l'essence, en fait, puisqu'elle se rencontrent, elles se confondent si on accepte ces hypothèses-là. Donc du coup, on est confronté à un dilemme. Soit on accepte M et on succombe au contre-exemple fainien, soit on renonce à N, et on ne sait pas trop comment... On peut garantir l'immunité au contre-exemple fainien, mais on risque de perdre l'attrait de l'épistémologie contrefactuelle puisqu'on n'a plus l'équivalence, donc ça ne marche pas bien. Alors, comment on peut se sortir de ce problème ? Alors, on peut faire appel à... Donc, si on veut être hétérodoxe, on va faire appel à des mondes impossibles. Donc là, je suis une proposition qui vient de Francesco Berto, Graham Priest, Rowan French et Dave Ripley, qui ont écrit un article à 4 pour dire que, expliquer que Williamson avait tort au sujet des contrefactuels. Donc c'est un article ad hominem contre Williamson, où il propose une théorie des contrefactuels qui fait le travail, au sens où, donc si vous évaluez vos contrefactuels dans des mondes impossibles, si vous introduisez, si vous introduisez l'absurde de telle manière qu'il est vrai dans tous les mondes impossibles et seulement dans les mondes impossibles, et si vous acceptez l'hypothèse supplémentaire qu'aucun monde impossible ne ressemble plus au monde réel qu'au monde possible, c'est-à-dire que quand vous partez d'une hypothèse possible, elle ne peut pas vous amener dans des mondes impossibles. Ça paraît intuitivement plausible. C'est quelque chose qui a été discuté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais il n'y a pas de, consensus. C'est un peu contre-exemple contre contre-exemple. En tout cas, si vous acceptez ça, et ça a l'air, enfin, c'est pas absurde de les accepter, alors vous pouvez garantir E, puisque en fait, le falsum va vous donner N et sig, le falsum va vous donner N et sig va vous donner P. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai envie de parler de beaucoup d'autres choses, mais il y a une manière de sécuriser l'équivalence sans avoir N, en fait. Enfin, sans avoir N sous cette forme-là. Je me suis mal exprimé. Le rôle que faisait N dans l'approche de Williamson, il peut être remplacé par l'assomption à propos de l'absurde, et le rôle que jouait P peut être remplacé par sig. Et donc, vous sécurisez votre équivalence. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en plus, vous avez des contrefactuels, des contre-possibles qui sont pas vides, qui sont pas vrais de manière vide, quel que soit le conséquent. Néanmoins, leur logique, elle ne marche pas pour une raison qui, ce coup-ci, a plus à voir avec la logique de l'essence. Donc, ça, c'est le moment où la logique des contrefactuels intervient avec la logique de l'essence. Donc il y a une règle d'inférence en logique des contrefactuels qui est une règle controversée, qui est le principe de simplification des antécédents disjonctifs. Donc lorsque vous partez d'une hypothèse qui est une disjonction et que vous arrivez à une certaine conclusion de manière contrefactuelle, en général, en tout cas intuitivement, ça paraît correct de dire que ça marche si on a juste une des deux conjonctions qui est valide. Donc là j'ai un exemple intuitif qui est censé véhiculer l'intuition. Donc si Materazzi n'avait pas provoqué Zidane, ou Zidane n'avait pas répondu, alors la France aurait 3 étoiles sur son maillot, puisqu'elle aurait gagné la finale en 2006 contre l'Italie. Mais si on accepte le premier, en général, on va aussi accepter le second, qui est que si Materazzi n'avait pas provoqué Zidane, alors la France aurait gagné aussi. Et de la manière, si Zidane n'avait pas répondu, ça a l'air d'être une conséquence logique de A. Et ça, c'est quelque chose qui vous est donné par cette règle. Et le problème, c'est que c'est une règle qui n'est pas garantie par la théorie des mondes impossibles. Elle n'est pas garantie par la théorie des mondes possibles, elle n'est pas garantie par la théorie des mondes impossibles. C'est une des objections qui a été faite très tôt à la théorie des mondes possibles au sujet des contrefactuels. Ça a été fait par Kit Fine dans sa recension du livre de David Lewis dès 1975. Et donc, alors pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce qu'on a besoin de cette règle pour sécuriser un principe qui me paraît être un principe assez évident, en tout cas extrêmement plausible de la logique de l'essence, qui est l'élimination de la conjonction. Donc si c'est essentiel, excusez-moi, il me manque des parenthèses, donc le A et B, la conjonction doit être considérée comme en entièreté dans gouvernée par l'opérateur d'essentiel. Donc s'il est essentiel à Socrate d'être à la fois animal et rationnel, alors a fortiori il est essentiel à Socrate d'être animal. Donc ça, c'est ce que vous donne, c'est le genre d'inférence qui est autorisé par ce que j'ai appelé SEC, donc la simplification des essentiels conjonctifs. Bon, c'est un peu pompeux, mais il faut bien donner un nom à ces règles d'inférence. Et donc, pour déduire cette règle d'inférence, vous avez besoin d'utiliser à cet endroit-là l'élimination des antécédents disjonctifs. Donc pour avoir une logique... Donc si vous voulez suivre le programme contrefactuel au sujet de l'essence, vous avez besoin d'être sûr que votre logique contrefactuelle vous donne automatiquement une logique de l'essence. Vous avez envie d'être sûr que votre logique de l'essence, elle a les bonnes propriétés. Pour qu'elle ait les bonnes propriétés, il faut qu'elle ait cette règle d'inférence. Donc si elle n'a pas cette règle d'inférence, ça pose un problème. Or, ce n'est pas facile de garantir ça quand on a une théorie des mondes impossibles. Et du coup, Pour ça, il faut utiliser une autre type de sémantique, qui est la sémantique des vérifacteurs, qui a été développée par KitFind précisément pour régler le problème de la simplification des antécédents disjonctifs. Et donc ça, si vous voulez, c'est la réponse que je donne à la première grande question, qui est la question des contre-possibles. Donc si vous voulez une théorie, une logique des contre-factuels qui traite bien les contre-possibles et qui vous donne la bonne logique de l'essence, vous avez besoin au moins de suivre ce genre de sémantique. Alors ça, c'est le sujet pour un autre papier que je suis par ailleurs en train d'écrire. Donc je ne vais pas forcément vous en dire plus, je peux répondre à des questions si vous en avez sur l'aspect technique. Mais c'est la solution à ce problème-là. Le troisième problème important, ça a à voir avec la contre-identité. Donc ça, on va regarder plutôt les conséquences de nos contre-factuels, des contre-factuels qui vont nous aider à définir l'essence. L'exemple que j'ai pris, c'est si Socrate n'avait pas été humain, il n'aurait pas été Socrate. Ok, on a envie de dire très bien, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire que Socrate n'aurait pas été Socrate? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un monde impossible dans lequel Socrate n'a pas la relation d'identité à lui-même? Et c'est quelque chose c'est un problème qui est d'autant plus qui apparaît de manière d'autant plus vive en fait quand on essaie de faire la formalisation logique, puisqu'il arrive un moment où on est obligé d'avoir soit un monde possible, soit un état possible qui va devoir falsifier Socrate est identique à Socrate. Et là, on se demande quel genre de situation on a besoin et quel sens ça. Donc ça, c'est un problème important. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ces cas-là? Et en particulier, si vous suivez l'heuristique, qui est celle de toute la plupart des théories contrefactuelles, donc l'idée, c'est qu'on part d'une supposition contrefactuelle, donc on imagine une situation ou un monde ou un état possible ou impossible dans lequel l'antécédent est vérifié, d'une certaine manière. On veut vérifier que le conséquent l'est aussi. Sauf que là, pour vérifier l'antécédent, on a besoin de Socrate, puisqu'on a besoin de vérifier que Socrate n'est pas humain. On a besoin de vérifier aussi qu'il n'est pas Socrate. Donc on a à la fois Socrate qui n'est pas Socrate. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Et c'est ce que j'appelle le problème des contre-identiques. Alors, on peut présenter ça sous forme de dilemme. Donc si Socrate n'est pas Socrate dans la situation contre-factuelle, alors l'antécédent du contre-factuel ne peut pas être évalué, puisqu'on a besoin d'avoir Socrate lui-même. En même temps, si Socrate est Socrate dans la situation contrefactuelle, alors la théorie contrefactuelle implique que Socrate n'a aucune propriété essentielle, puisque pour toucher une propriété essentielle de Socrate, il faut arriver à une situation où Socrate n'est pas Socrate. Donc du coup, ça a l'air d'être insoluble de rendre cohérente, de donner une analyse cohérente de ce genre de conditionnel, qui, malgré tout, arrive dans le langage naturel, il arrive dans le langage des philosophes, en tout cas sous la plume de Rorty. Donc, il y a un défi, en quelque sorte, à rendre compte de tout ça. Et en fait, la solution, c'est de faire appel à la théorie des contreparties. Donc, c'est une théorie que j'utilise ici dans son application sémantique. Pour ce qui est des conséquences, de ces conséquences métaphysiques, j'ai envie de dire, c'est encore une autre question, mais l'usage que je vais en faire, c'est celui d'un sémanticien qui chercherait à utiliser cette théorie pour formaliser ce genre de conditionnel. Donc l'idée de base de la théorie des contreparties, c'est que les individus occupent une situation unique dans un monde possible, ils n'existent que dans un seul monde possible, et lorsque on évalue une hypothèse contrefactuelle au sujet de Socrate, donc on ne va pas voir littéralement une situation alternative où il y a Socrate qui fait autre chose. On va avoir une situation alternative où il y a un autre individu qu'on va prendre comme un représentant de Socrate ou comme une contrepartie de Socrate. Et si cette contrepartie fait telle ou telle chose, on va dire que Socrate aurait fait telle ou telle chose s'il avait été dans cette situation. Et donc du coup, il faut reformuler un peu la manière dont on va évaluer nos contrefactuels. Par exemple, donc si on a une phrase A qui est au sujet de petit a et une phrase grand B qui est au sujet de petit t, donc l'évaluation, c'est donc on impose un changement qui garantit pour tout changement qui garantisse que A ait une contrepartie A prime vérifiant exactement grand A, il faut que ça garantisse que grand B soit vérifié. J'ai utilisé une formulation un peu trop compliquée, mais en gros, Ce qu'il s'agit de vérifier, ce n'est pas quelque chose du sujet de Socrate, c'est quelque chose du sujet de la contrepartie de Socrate. Donc ça complique un peu la formulation de la théorie, mais c'est quelque chose qui est bien connu par tous les sémanticiens qui utilisent la théorie des contreparties. En fait, pour que ça marche vraiment, il faut utiliser une version un peu plus particulière de la théorie des contreparties, qui est la théorie des contreparties multiples, qui permet d'associer des relations de contreparties différentes à un même terme singulier. Donc un même terme singulier qui va avoir plusieurs occurrences au sein du même conditionnel contrefactuel va pouvoir être associé à plusieurs contreparties dans différentes circonstances alternatives. Et ça, c'est une idée qui a été utilisée notamment par Alexandre Kokurek dans un article 2018 pour parler des contre-possibles et qui, à mon avis, fonctionne assez bien, même si c'est des contre-possibles différents que les contre-possibles qui nous intéressent ici. Et donc, une manière de se convaincre rapidement, parce que je n'ai pas énormément de temps pour tout expliquer dans les détails, mais pour se convaincre rapidement que c'est une voie qui est prometteuse, on peut comparer deux contre-possibles, un qui dit « si j'étais toi, je voterais pour moi », et l'autre qui dit « si j'étais toi, je voterais pour moi-même ». Donc, peut-être qu'il faut s'imaginer deux candidats à l'élection présidentielle, ou peut-être pas, enfin, deux personnes qui... voilà, il y a un vote. Et donc, lorsque j'ai dit « si j'étais toi, je voterais pour moi », je ne veux pas dire, ça n'implique pas que si j'étais toi, je voterais pour moi-même. C'est deux assertions complètement différentes. La première a dit, si j'étais à ta place, je voterais pour... Donc si, moi, je suis candidat A, et si j'étais à ta place, je voterais pour le candidat A. Alors que la deuxième dit, si j'étais à ta place, moi, je suis candidat A, toi, tu es candidat B. Si j'étais à ta place, je voterais pour A, je voterais pour moi-même. Donc, il y a une différence entre affirmer l'identité à soi et affirmer l'identité, qui est, même si syntaxiquement elle est réalisée d'une manière un peu subtile, puisque on a un pronom qui semble renvoyer à la même entité dans la première phrase, mais en fait c'est deux pronoms qui doivent être associés à des référents différents. Et donc cette théorie des contreparties multiples, elle explique bien ces contre-possibles-là, et donc du coup on peut l'utiliser aussi pour éclairer le sens de contre-possible dans lequel vous avez une négation d'identité en position de conséquent. Donc je me suis mis à la recherche d'exemples dans le langage naturel de contrefactuels de la forme « si telle et telle chose avait eu lieu, alors un tel n'aurait pas été un tel ». Puis j'en ai trouvé une au sujet de Trump. Donc il dit que si, donc ils ont mis le conséquent en premier, mais du point de vue de la forme logique, on voit bien que c'est le conséquent. Donc Trump ne serait pas Trump s'il ne s'était pas fait une arme de la peur la plus profonde de l'homme blanc, celle de devenir une minorité. Donc c'est pas moi qui dis ça, c'est The Independent. Mais c'est, voilà, les journalistes de The Independent comprennent ce genre de tournure, et ce qu'ils veulent dire, c'est bien sûr, c'est pas que dans cette situation-là, Trump aurait eu la propriété métaphysiquement très bizarre de perdre la propriété d'être identique à soi-même, qui est une chose que tous les objets possibles, jusqu'à preuve du contraire, possèdent. Ce qu'on a perdu, c'est le fait que Trump ne ressemble pas à lui-même. Trump perd un trait. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est un trait qui lui est essentiel, parce que je ne sais pas si c'est essentiel à Trump. En tout cas, c'est peut-être essentiel à la personnalité politique de Trump. Et c'est ce que voulait dire, je pense, le journaliste de The Independent. Et ça, c'est quelque chose dont on peut rendre compte en appliquant la théorie des contreparties multiples. Donc, l'idée, c'est qu'on va voir une situation contrefactuelle dans laquelle on met un individu qui ne se fait pas une arme de la peur la plus profonde de l'homme blanc. Blablabla. Et après, on va voir, on se demande si cet homme-là, c'est vraiment une contrepartie de Trump. Est-ce que c'est quelqu'un qui ressemble vraiment à Trump? Et on dit, bah non. Et donc, on conclut que ça n'aurait pas été Trump. En revanche, si on utilise le même exemple et remplace ne serait pas Trump par ne serait pas identique à soi, là, du coup, on évalue quelque chose de différent, et là, ça paraît faux. Donc, du coup, il reste, donc là, j'ai expliqué qu'en faisant des distinctions entre des relations de contrepartie, on arrive à rendre cohérente l'analyse de ce genre de phrases, mais ça ne nous explique pas de quelle relation de contrepartie on a besoin pour que ça marche dans le cadre de l'essence. Et là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais en gros, l'idée, c'est que quand on évalue pour Socrate en position d'antécédent, quand il se prend si Socrate n'avait pas été humain, on a une relation de contrepartie qui n'est pas contrainte, c'est-à-dire on peut prendre n'importe quel objet, ce n'est pas le problème. En revanche, lorsqu'on interprète Socrate en position de conséquent, on a besoin d'une contrepartie de Socrate lui-même qui respecte l'identité de Socrate. Alors, si vous, je n'ai pas le temps de le défendre dans le détail, mais si vous avez peur du fait que la contrepartie est libre et non contrainte dans l'antécédent, vous pouvez peut-être plus vous convaincre que l'analyse fonctionne aussi si vous remplacez le nom propre de Socrate par une variable. En fait, peu importe que ce soit Socrate ici qui soit, dont on parle dans l'antécédent, c'est quelque chose que ce soit ou quelque personne que ce soit, si ça n'avait pas été humain, alors ça n'aurait pas pu être Socrate, parce que c'est censé être Socrate d'être humain. Donc quelque part, quand on dit si Socrate n'avait pas été humain, alors Socrate n'aurait pas été Socrate, c'est comme si on instanciait par Socrate cette forme-là. Donc du coup, je vais boucler la boucle, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, en essayant de voir comment cette théorie contrefactuelle de l'essence gère les contre-exemples Feynman, puisque c'était un peu le but qu'on s'était donné, d'arriver à leur en donner un traitement correct. Donc si Socrate n'avait pas existé, Socrate n'aurait pas été Socrate, ça paraît être faux, puisque ça dépend vraiment il y a une question, technique de savoir comment on connecte l'existence à la nécessité. Mais en tout cas, il y a un sens très clair où ça paraît absurde de dire que si on accepte que si Socrate n'avait pas existé, Socrate n'aurait pas été Socrate, ça revient à lui attribuer, ça revient à exprimer l'idée que Socrate possède l'existence nécessairement. Peut-être on pourrait dire au sujet de Dieu que si Dieu n'avait pas existé, Dieu n'aurait pas été Dieu. Et ça marche parce que Dieu existe nécessairement. J'ai envie de dire s'il existe. Mais dans le cas de Socrate, on n'a pas envie d'affirmer ça. Donc du coup, je pense que on évite le problème de la théorie modale à ce niveau-là. Au sujet de 1 plus 2 égale 4, ça paraît encore plus clair. Donc si Socrate n'avait pas été tel que 1 plus 1 égale 2, alors Socrate n'aurait pas été Socrate, ça paraît faux, on n'a pas envie de dire ça. Il aurait pu très bien rester lui-même, rester Socrate, même si on change les maths, on ne change pas Socrate. Donc jusque-là, ça va. Alors dans le cas de la tour Eiffel, c'est beaucoup plus délicat, parce que si jamais, donc on dit, la question c'est est-ce que Socrate est... donc il faut dire, voilà, si Socrate n'avait pas été distinct de la tour Eiffel. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire, Socrate, si Socrate n'avait pas été distinct de la tour Eiffel? Ça veut dire si Socrate avait été identique à la tour Eiffel. Et à partir du moment où on se met dans une situation où Socrate est identique à la tour Eiffel, ce sont deux choses très différentes, donc on peut se dire qu'on a des risques d'aboutir à quelque chose qui n'est plus du tout Socrate. Sauf que, comme on accepte des contreparties libres, on peut très bien réaliser cet antécédent. Là, je vais très vite, je n'ai pas le temps de détailler toutes les étapes, mais l'idée, c'est que pour arriver à conclure que cette propriété est essentielle à Socrate, il faut que, dans toutes les manières de réaliser l'antécédent, on aboutisse à une situation dans laquelle Socrate n'est pas Socrate. Ce qu'on a besoin de manipuler, c'est seulement l'identité numérique entre Socrate et la tour Eiffel. On ne manipule pas les propriétés de la tour Eiffel, on ne manipule pas les propriétés de Socrate. Donc il y a dans l'espace de toutes les situations possibles et impossibles une situation dans laquelle la tour Eiffel est juste identifiée à Socrate. Donc c'est une situation où la tour Eiffel, c'est un philosophe grec, voilà, qui a aucune des propriétés qualitatives de la tour Eiffel, qui n'a que des propriétés qualitatives de Socrate. Et dans cette situation-là, au moins, on n'a aucune raison de dire que ce Socrate-là, qui est identique à la tour Eiffel, n'est pas Socrate. Donc c'est comme ça qu'on évite le contre-exemple. Et pour ce qui est de... c'est la dernière slide. Donc, pour ce qui est de, du cas du singleton, donc il faut aller voir un état impossible où on a Socrate, on a le singleton de Socrate, mais on n'a pas la relation d'inclusion entre les deux. Et on n'est pas obligé on peut juste être dans un... dans une situation impossible où la théorie des ensembles n'est pas la même. Et donc on supprime la théorie des ensembles, telle qu'on la connaît en tout cas. On n'est pas obligé de supprimer l'identité de Socrate. Donc c'est comme ça qu'on arrive à éviter l'essentialité de l'appartenance de Socrate au singleton Socrate. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends impatiemment vos questions.